Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle, on la voit partout, elle s'immisce vraiment dans notre quotidien, elle promet beaucoup de choses, de tout révolutionner.
Oui, c'est vrai.
Mais voilà, sous le capot de ces systèmes qui sont souvent fascinants, il y a toute une mécanique, assez complexe, surtout quand nos données personnelles entrent en jeu. L'IA, elle offre des possibilités immenses, ça on le voit bien, mais elle nous confronte aussi à des questions, disons, essentielles sur la protection de nos droits fondamentaux.
Tout à fait.
Alors, pour nous guider aujourd'hui, on va s'appuyer sur un document récent, très pertinent. Ce sont les orientations pour la gestion des risques des systèmes d'IA. C'est publié par le contrôleur européen de la protection des données, le CEPD.
D'accord. Oui, c'est beaucoup plus large en pratique.
Notre objectif, c'est quoi? C'est de comprendre les principaux risques que ce guide met en lumière, et surtout de voir comment ils se heurtent ou, au contraire, s'alignent avec les grands principes de protection des données qu'on connaît via le RGPD. Ici, dans le guide, c'est le règlement spécifique aux institutions européennes qui est cité, le 2018-170-25. On va s'intéresser de près aux défis techniques, parce que c'est souvent là que ça coince, et puis aux pistes de solutions qui sont évoquées.
D'accord, le côté pratique.
Voilà, au programme. Ah ben, on va d'abord poser un peu le cadre, parler du cycle de vie d'une IA, de l'importance de pouvoir comprendre comment elle fonctionne, c'est crucial.
Essentiel, ouais.
Ensuite, on explorera les risques liés à l'équité, puis à l'exactitude des informations, à la nécessité aussi de minimiser les données qu'on utilise, et puis la sécurité, bien sûr, de tout le système. Et enfin, comment garantir nos droits sur nos propres données.
Un programme chargé.
C'est parti pour une analyse en profondeur. Alors, avant de plonger vraiment dans les risques, un petit mot sur le parcours d'un système d'IA. Comment ça naît? Comment ça vit?
Le cycle de vie, oui.
Ça commence par une idée, une analyse des besoins, puis il faut acquérir les données, développer le modèle, faire des tests, le déployer, l'utiliser au quotidien, et ça va jusqu'à sa mise en service à la fin. Ce qui est important de noter, et le guide le souligne, c'est que des risques, il peut y en avoir à chaque étape. Vraiment à chaque étape, même simplement en achetant un système déjà fait sur étagère.
Oui, l'acquisition est une phase critique aussi.
D'ailleurs, petite précision de vocabulaire tirée de l'acte européen sur l'IA, un système d'IA, c'est défini comme étant basé sur une machine capable d'inférer comment générer des résultats.
Voilà.
C'est plus large que le simple modèle d'IA. Le modèle, c'est juste la partie algorithmique, mathématique. Le système, lui, il englobe tout. Le modèle, les données, l'infrastructure.
Exactement. Et avant même de décortiquer les risques liés à chaque principe de protection des données, équité, exactitude, etc., il y a un prérequis, un point fondamental que le guide soulève, c'est la nécessité de comprendre au moins à un certain degré comment ces systèmes fonctionnent.
Ah oui.
On parle ici d'interprétabilité et d'explicabilité. Sans ça, c'est très difficile d'évaluer sérieusement les risques, presque impossible même.
Interprétabilité, explicabilité. Quelle est la différence concrète entre les deux? Mais c'est pas toujours clair.
Alors, l'interprétabilité, c'est la capacité à comprendre le mécanisme interne du modèle, comment il passe des données d'entrée à sa décision finale. Pour certains modèles, c'est assez simple.
Par exemple.
Une régression linéaire qui va estimer un prix immobilier en fonction de la surface, du nombre de pièces, c'est assez transparent. On voit directement l'influence de chaque facteur.
D'accord.
L'explicabilité, c'est un peu différent. C'est la capacité à fournir une explication claire pour une décision spécifique, même si le fonctionnement interne global reste complexe, une boîte noire.
Ah oui, la fameuse boîte noire.
C'est ça. Prenons un système complexe, un réseau de neurones qui analyse des radios pulmonaires. C'est très difficile de comprendre exactement comment chaque neurone artificiel contribue à la décision finale. Mais on peut utiliser des techniques spécifiques, LIME, c'est un exemple connu, pour montrer quelles zones de cette radio précise ont le plus pesé dans la décision de diagnostiquer, disons, une pneumonie. Ça n'ouvre pas toute la boîte noire, mais ça éclaire une sortie particulière, une décision donnée.
Donc, le risque majeur, si on manque de ça, si on n'a ni interprétabilité ni explicabilité, c'est d'utiliser des systèmes sans vraiment savoir ce qu'ils font au fond.
Précisément, c'est le risque de la boîte noire incontrôlable. Et pour atténuer ce risque, le guide insiste sur plusieurs points. D'abord, une documentation très détaillée.
C'est-à-dire?
Sur l'architecture du système, les données qui ont servi à l'entraîner, les limites connues, les biais potentiels identifiés, c'est un peu la carte d'identité du système d'IA.
D'accord.
Ensuite, utiliser ces fameuses techniques d'explicabilité pour pouvoir justement justifier les décisions importantes. celles qui ont un impact. Et enfin, analyser statistiquement les performances pour comprendre les tendances générales, les points forts, les points faibles.
Je vois.
Sans cette base de compréhension, garantir l'équité, l'exactitude ou même la sécurité, ça devient très, très compliqué.
Très clair. Bon, cette base étant posée, attaquons le vif du sujet. L'IA face aux grands principes de protection des données. On commence par l'équité.
Allons-y.
L'équité, c'est un principe fondamental hein, qui dit en gros qu'on ne doit pas traiter les données de manière injustifiée, discriminatoire ou même trompeuse. Avec l'IA, on pense tout de suite au risque de biais.
Oui, et le guide montre bien que ce risque de biais, il est multiforme. Il peut venir des données elles-mêmes, si elles reflètent des discriminations qui existent déjà dans la société, par exemple, ou si elles sont de mauvaise qualité, tout simplement.
Mmh.
Le biais peut aussi venir de la conception de l'algorithme, si celui-ci, par sa structure, introduit ou amplifie des inégalités. Et puis, il peut même venir de la façon dont nous, les humains, on interprète les résultats de l'IA.
D'accord, donc c'est à plusieurs niveaux. Comment le guide suggère-t-il de gérer ce risque complexe qui vient des données ? Le fameux « garbage in, garbage out ». Les données pourries donnent des résultats pourris.
Effectivement. La qualité et la représentativité des données d'entraînement sont absolument cruciales. Le risque, c'est que le modèle apprenne sur une base qui est faussée ou incomplète.
Logique.
Donc, le guide préconise une politique d'assurance qualité très rigoureuse. Il faut vérifier la collecte, le nettoyage aussi, l'étiquetage des données. Mais ça va plus loin. Il faut s'assurer que les données sont représentatives.
Représentatives.
Représentatives de la population sur laquelle l'IA sera réellement utilisée. Il faut éviter les erreurs d'échantillonnage. Si on entraîne une reconnaissance faciale majoritairement sur un seul type de visage, elle va mal performer sur les autres types, c'est évident.
Ah oui.
Il faut faire attention aussi aux biais historiques qui peuvent être cachés dans les données. Par exemple, des données passées où certains groupes étaient sous-représentés dans certains métiers. Le modèle pourrait apprendre et perpétuer ça.
Et comment on fait concrètement pour avoir des données plus justes alors ?
Alors, il y a plusieurs pistes techniques qui sont évoquées. D'abord, bien choisir les caractéristiques, les variables qu'on donne au modèle. Il faut éviter celles qui sont des proxys pour des données sensibles.
Des proxys ?
Oui, par exemple, le code postal. Il peut être corrélé au revenu ou à l'origine ethnique. Si on l'utilise sans précaution, ça peut introduire des biais indirects.
D'accord, je vois.
On peut aussi utiliser des techniques d'ingénierie des caractéristiques. Par exemple, rééquilibrer artificiellement les données pour donner plus de poids aux groupes qui sont sous-représentés. Et surtout, réaliser des audits de biais réguliers.
Des audits ?
Oui, avec des outils statistiques dédiés pour détecter et mesurer ces problèmes. Avant le déploiement, mais aussi pendant, en continu.
Donc le problème n'est pas que dans les données. Vous disiez que ça pouvait venir aussi de la logique même du modèle.
Exactement. C'est l'autre grande source de biais possible, le modèle lui-même. Il y a un risque bien connu qui s'appelle le surapprentissage ou overfitting en anglais.
Le surapprentissage ?
Oui, ça veut dire que le modèle devient trop bon pour mémoriser les données d'entraînement. Il apprend par cœur, y compris les défauts, le bruit dans les données, au lieu d'apprendre des règles générales.
Ah ! Et du coup ?
Du coup, il sera parfait sur les données qu'il connaît déjà, mais très mauvais sur de nouvelles données inconnues. Pour éviter ça, il existe des techniques. On peut arrêter l'entraînement plus tôt, simplifier le modèle ou utiliser des méthodes de régularisation qui pénalisent la complexité excessive du modèle.
D'accord.
Et puis, le biais algorithmique intrinsèque, c'est-à-dire des défauts dans la conception même de l'algorithme. L'exemple qu'on cite souvent, c'est le système Compass aux États-Unis pour évaluer le risque de récidive.
Oui.
Il s'est avéré qu'il était défavorable à certaines populations, et c'était en partie dû au choix mathématique fait dans sa modélisation. Pour contrer ça, le guide suggère d'utiliser des algorithmes spécifiques conçus pour intégrer l'équité, ou alors de ne pas optimiser le modèle uniquement sur la précision globale, mais aussi sur des métriques d'équité spécifiques. Et toujours, privilégier des modèles dont on peut comprendre le fonctionnement. L'interprétabilité, on y revient.
Et le facteur humain dans tout ça ? On peut aussi introduire des biais nous-mêmes ?
Il n'est pas oublié, non. Le dernier risque lié à l'équité que mentionne le guide, c'est justement le biais d'interprétation. Nous, les humains, on peut tirer des conclusions erronées des résultats de l'IA. On peut être influencé par nos propres préjugés.
Ah oui, bien sûr.
Les parades. Avoir des équipes d'analyse qui soient diversifiées. Fournir une documentation très claire sur les limites du système. utiliser les outils d'explicabilité pour comprendre pourquoi l'IA donne ce résultat précis. Et puis, former les équipes à ces enjeux de biais. C'est essentiel.
On voit que l'équité, c'est vraiment un vaste chantier, hein ?
Ah oui, complexe.
Passons à un autre principe clé, l'exactitude. Le guide fait une distinction importante ici, n'est-ce pas ?
Oui, et c'est crucial de bien comprendre cette distinction. Il y a d'un côté l'exactitude au sens légal du RGPD. Les données personnelles elles-mêmes doivent être correctes, exactes et tenues à jour.
D'accord.
Et de l'autre côté, il y a l'exactitude statistique. C'est une mesure de performance de l'IA. Est-ce que le modèle prédit correctement ? Est-ce qu'il se trompe souvent ?
Et le risque principal, c'est quoi ?
Le risque principal, soulevé par le guide, c'est que l'IA elle-même génère ou propage des informations qui sont inexactes sur les personnes. On pense notamment aux fameuses hallucinations des modèles génératifs, comme les grands modèles de langage.
Ah oui, quand ils inventent des choses, comment on s'assure que l'IA ne raconte pas de bêtises sur nous alors ?
Alors, les mesures recoupent en partie celles pour l'équité, en fait. Avoir des données d'entraînement de très haute qualité, c'est la base. Tester rigoureusement le système, y compris avec des cas un peu tordus, des edge cases, ou même des données conçues exprès pour le tromper, ce qu'on appelle les adversarial examples. Il faut aussi s'assurer que les données d'entraînement sont diversifiées, équilibrées. Et souvent, une supervision humaine reste indispensable.
C'est-à-dire ?
Soit en collaboration directe avec l'IA, soit avec un humain qui valide les sorties critiques du système. C'est le principe du « human in the loop », l'humain dans la boucle.
D'accord.
Un autre risque important pour l'exactitude, qui est bien mis en avant, c'est la dérive des données, le « data drift ».
La dérive des données.
Oui, les données du monde réel, elles changent tout le temps. Les contextes évoluent. Si un modèle est entraîné sur des données d'hier, il peut devenir moins pertinent, moins exact aujourd'hui.
Donnez-nous un exemple.
Imaginez un modèle de scoring de crédit. Il a été entraîné avant une grosse crise économique, sur des données d'une période stable. Puis on l'utilise pendant la crise. Les comportements des clients, les données financières, tout ça a changé. Le modèle risque de ne plus être très exact.
Cette dérive des données, ça veut dire qu'un modèle IA n'est jamais vraiment fini. Alors, il faut le surveiller en permanence.
C'est exactement ça. La gestion de l'exactitude dans le temps, c'est un défi majeur. Les mesures, elles passent par la mise en place de systèmes pour détecter cette dérive. Une surveillance continue de la qualité des données qui entrent dans le système et surtout, un réentraînement régulier du modèle avec des données fraîches, plus récentes. C'est un cycle continu, en fait.
D'accord. Et si on achète un système d'IA à un fournisseur externe, comment on peut s'assurer de son exactitude ? C'est pas nous qui l'avons développé.
C'est un point clé, oui. Surtout pour les institutions qui passent des marchés publics. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Il faut exiger une documentation très poussée de la part du fournisseur.
Quoi comme documentation ?
Ben, comment le modèle a été entraîné ? Quelles sont ses performances mesurées ? Et avec quelles métriques précises d'exactitude, mais aussi d'équité ? Comment la transparence, l'explicabilité sont assurées ? Quelles sont les mesures de sécurité mises en place ? Tout ça est essentiel pour faire un choix éclairé au départ. Et puis, pour pouvoir vérifier ensuite les performances réelles une fois le système déployé.
Logique. Abordons maintenant le principe de minimisation des données. Le RGPD dit « moins on collecte de données personnelles, mieux c'est pour la vie privée ». Mais l'IA, elle semble souvent en vouloir toujours plus. C'est un peu contradictoire, non ?
C'est le grand paradoxe, oui. L'IA, surtout l'apprentissage profond, les réseaux de neurones, est très gourmand en données pour bien fonctionner. Le risque, c'est donc de tomber dans une collecte excessive, un peu au chaos, en se disant « on prend tout, ça servira peut-être un jour ».
Et le guide dit quoi là-dessus ?
Il rappelle les bonnes pratiques, en fait. D'abord, bien évaluer en amont si chaque type de données qu'on envisage de collecter est vraiment nécessaire pour l'objectif précis qu'on vise. Ensuite, explorer des techniques comme l'échantillonnage. Peut-être qu'un sous-ensemble représentatif des données suffit, on n'a pas besoin de tout garder, de tout stocker. Et enfin, quand c'est possible, il faut anonymiser ou pseudonymiser rapidement les données pour réduire les risques au maximum.
D'accord. Venons-en à la sécurité. Garantir l'intégrité et la confidentialité des données, c'est un peu la base de la protection des données. Mais est-ce que l'IA ajoute des vulnérabilités spécifiques ? Le guide parle d'attaques par inversion de modèle, d'empoisonnement de données. Ça fait un peu peur, dit comme ça.
Oui, l'IA ouvre de nouvelles portes aux attaquants potentiels, en plus des risques informatiques classiques qu'on connaît déjà. Un premier risque, c'est que le système IA lui-même révèle, sans le vouloir, des informations sur les données personnelles qui ont servi à l'entraînement.
Comment ça?
Ça peut passer par différentes techniques. Par exemple, l'inversion de modèle. On essaye de reconstituer des données d'entraînement en analysant les résultats du modèle. Il y a aussi l'inférence d'appartenance. On essaye de deviner si une personne précise faisait partie des données d'entraînement ou non. Ou même plus simplement, la régurgitation. Le modèle peut parfois recracher des bouts de texte ou de données qu'il a mémorisées pendant l'entraînement.
Ah oui, c'est problématique. Comment on se protège de ça?
Déjà, la minimisation des données aide. Moins on a de données sensibles au départ, moins on risque d'en fuiter. Ensuite, des techniques de perturbation des données sont aussi évoquées dans le guide.
Perturbation?
Oui, comme l'ajout de bruit statistique contrôlé, c'est le concept de confidentialité différentielle. Ça permet de brouiller un peu les pistes pour protéger la vie privée sans trop dégrader la performance globale du modèle. L'utilisation de données synthétiques générées artificiellement est une autre piste, mais elle a aussi ses propres limites et ses risques. Il faut être prudent.
Et cet empoisonnement de données ou de modèles, ça fait un peu film d'espionnage, non? C'est réel?
C'est moins spectaculaire dans la réalité, mais c'est bien réel, oui. L'empoisonnement de données, data poisoning, c'est quand un attaquant arrive à manipuler discrètement les données d'entraînement pour corrompre le futur modèle, pour le rendre biaisé ou inefficace sur certaines tâches.
D'accord.
Il y a aussi l'empoisonnement de modèle, model poisoning, où l'attaque vise directement le modèle pendant sa phase d'apprentissage. Et une fois que le modèle est déployé, il peut subir des attaques d'évasion. Là, on lui soumet des données d'entrée qui sont spécialement conçues pour le tromper.
Un exemple?
L'exemple classique, c'est un panneau stop légèrement modifié pour qu'une voiture autonome ne le reconnaisse plus comme un stop.
Ah oui, quand même. Face à tout ça, que préconise le guide en termes de défense?
C'est un mélange de bonnes pratiques de cybersécurité, mais renforcées et adaptées spécifiquement aux risques de l'IA. Le chiffrement des données, bien sûr. Des pratiques de développement sécurisées dès la conception. Des contrôles d'accès très stricts avec authentification forte. On parle souvent de MFA, multifacteur authentification, qui demande plusieurs preuves d'identité. Il faut aussi gérer rigoureusement les accès aux API, ces interfaces qui permettent aux différents systèmes de communiquer entre eux. Et puis, une surveillance constante des activités suspectes, souvent via des systèmes centralisés qu'on appelle SIEM, Security Information and Event Management. C'est vraiment une défense en profondeur qu'il faut mettre en place.
Compris. On arrive au dernier grand sujet, nos droits sur nos données. Le droit d'accès, de rectification, d'effacement. Le fameux droit à l'oubli. C'est facile sur le papier, mais avec une IA qui a appris de nos données, comment fait-on concrètement pour exercer ses droits? Ça a l'air compliqué.
C'est sans doute l'un des défis techniques les plus ardus que soulève le GUI. Le premier problème, c'est déjà d'identifier où sont exactement les données d'une personne donnée et surtout comment elles ont influencé le modèle final. Particulièrement dans des systèmes très complexes, entraînés sur d'immenses volumes de données, parfois non structurés, comme du texte ou des images.
C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin algorithmique.
C'est un peu ça, oui. Pour essayer d'y répondre, le guide pointe vers l'importance des métadonnées, avoir des informations détaillées sur les données d'entraînement, et aussi vers le développement d'outils spécifiques pour tracer et retrouver l'information pertinente au sein du système.
D'accord. Et même si on trouve l'information, comment la corriger ou la supprimer si elle est comme diluée dans les millions de paramètres du modèle? On ne peut pas juste effacer une ligne dans une base de données, j'imagine.
C'est le deuxième défi majeur, exactement. Modifier ou effacer l'influence d'une donnée spécifique dans un modèle qui a déjà été entraîné, sans devoir tout réentraîner, ce qui est souvent extrêmement coûteux en temps et en ressources, c'est très très complexe techniquement.
Et il y a des solutions?
Il y a un domaine de recherche émergent qui s'appelle le désapprentissage automatique ou machine unlearning. L'idée, c'est de trouver des moyens d'effacer l'influence d'une donnée sur le modèle. Le guide distingue le désapprentissage exact, où on garantit que le modèle se comporte exactement comme s'il n'avait jamais vu la donnée, mais c'est très coûteux et pas toujours possible techniquement.
Et l'autre?
L'autre, c'est le désapprentissage approximatif. C'est plus réalisable, mais les garanties sont moins fortes. On essaye de s'approcher de l'état oublié, mais sans garantie absolue. Une autre approche qui est moins idéale mais parfois plus pragmatique, c'est de filtrer les sorties du modèle. On bloque l'affichage d'informations personnelles qu'on voudrait effacer, même si elles sont toujours en quelque sorte présentes dans les rouages internes du modèle.
Ce désapprentissage, c'est la solution miracle ou c'est encore très limité aujourd'hui?
C'est une piste de recherche très active. Vraiment. Mais on est encore loin d'avoir des solutions qui soient universelles, faciles à appliquer, surtout pour les très grands modèles complexes qu'on voit apparaître. Ça pose vraiment la question de l'effectivité, de la mise en œuvre réelle de certains droits, comme le droit à l'effacement, à l'ère de l'IA.
En faisant le tour de tous ces principes, l'équité, l'exactitude, la minimisation, la sécurité et les droits des personnes, on se rend bien compte que tout est lié en fait, n'est-ce pas? Si on améliore la sécurité, ça peut aider à protéger les droits, c'est sûr. Mais si on utilise moins de données pour la minimisation, ça peut peut-être impacter l'exactitude ou l'équité?
Absolument. C'est un système complexe où chaque décision peut avoir des répercussions sur les autres aspects. C'est pourquoi le message central du guide, vraiment, c'est la nécessité d'adopter une approche qui soit systématique et continue de gestion des risques, tout au long du cycle de vie de l'IA.
Pas juste au début.
Non, pas juste au début. Il ne s'agit pas de cocher des cases une fois pour toutes au moment du lancement. Il faut intégrer cette réflexion sur les risques et la protection des données dès la conception. C'est le fameux « privacy by design » et surtout la maintenir vivante tout au long de l'utilisation du système. C'est une question de responsabilité, d'accountability. Ça va au-delà de la simple conformité légale, en fait. Pour moi, c'est une condition essentielle si on veut bâtir une IA qui soit digne de confiance.
Donc, si on devait retenir une chose de cette exploration des orientations du CEPD, c'est que naviguer dans le monde de l'IA en respectant nos données personnelles, ça demande une vigilance constante. Ça demande aussi une compréhension technique suffisante, au moins des enjeux, et puis des mesures proactives qui soient intégrées à chaque étape. C'est pas simple, mais c'est crucial.
Tout à fait. Et peut-être pour nourrir la réflexion après notre discussion, voici une question qui découle directement de ces défis techniques qu'on a évoqués. Étant donné la difficulté, voire l'impossibilité pratique actuelle, d'effacer complètement l'influence de certaines données dans les grands modèles d'IA, que signifie encore réellement le droit à l'oubli tel qu'on le conçoit traditionnellement? Est-ce que les techniques comme le désapprentissage pourront un jour combler cet écart? Ou est-ce qu'il faudra adapter nos attentes et peut-être même adapter la définition de ce droit face à cette nouvelle réalité technologique?
C'est une question fondamentale, en effet, qui nous laisse songeurs. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cette analyse approfondie des risques liés à l'IA et à la protection de nos données personnelles, faite à la lumière des travaux du contrôleur européen de la protection des données.